Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très contente de pouvoir partager ma recherche avec vous. Et voilà, donc je suis doctorante en co-tutelle entre l'INALCO et la PFSU sous la direction de Monsieur Thomas Sandé et Monsieur Fo Rong qui est là aujourd'hui. Donc le sujet de ma communication. Le sujet de ma communication aujourd'hui, c'est la culture française dans les manuels de FLE en Chine de 1949 à 2019, représentation, conception et évolution. Donc, c'est en fait lié à une partie de ma thèse, de la thèse que je prépare en ce moment. Et pendant les 25 minutes peut-être suivantes, je vais vous présenter brièvement le corpus de la recherche, la méthodologie, la représentation de la France dans mon corpus et l'évolution de la conception culturelle dans ces manuels. Donc, premièrement, le corpus. Parmi une myriade de manuels parus de 1949 en 2019, c'est-à-dire pendant les 70 ans après la fondation de la République populaire de Chine, nous avons choisi comme corpus cinq manuels que nous jugeons les plus représentatifs. Ils sont parmi les manuels les plus utilisés pendant les cinq périodes historiques de la Chine nouvelle. Leur importance et représentativité s'expliquent par les faits suivants. Premièrement, les cinq manuels sont tous destinés aux étudiants qui apprennent le français comme spécialité à l'université. Ils sont employés dans le cours de français général, donc cours principal dans l'enseignement du français fondamental. Par rapport à ceux utilisés par les apprenants de français comme deuxième ou troisième langue étrangère, ou ceux utilisés dans d'autres cours, par exemple compréhension orale ou expression orale, ces manuels sont plus riches et plus profonds en contenu parce qu'ils demandent des heures d'enseignement plus volumineuses. Et deuxièmement, parmi les cinq manuels, quatre sont rédigés par les professeurs à l'Institut des langues étrangères de Pékin, aujourd'hui appelé BFSU. Et à travers les manuels, nous voyons la succession des conceptions linguistiques, culturelles, pédagogiques, héritées de génération en génération au sein de cette même institution. Et troisièmement, les cinq manuels sont des ouvrages pédagogiques importants dans cinq différentes périodes qui marquent l'histoire de la Chine nouvelle. La première commence en 1949, l'année de la fondation de la République populaire de Chine, et dure jusqu'à la fin des années 50. Il s'agit de la décennie où la Chine était isolée par le bloc occidental, sauf le grand frère soviétique. La deuxième période, de 1960 en 1970, 66, pardon, quelque peu éphémère à cause du déclenchement de la grande révolution culturelle. Et cette période est marquée par la rupture de l'amitié sino-soviétique et l'établissement des relations diplomatiques avec la France. Ensuite, de 1978 en 1990, la politique de la réforme et l'ouverture a favorisé la vivacité de l'enseignement des langues étrangères dans une Chine réouverte à l'extérieur. Et la quatrième et la cinquième période durent chacune 10 ans, où la Chine devient de plus en plus active, les échanges sino-français se multiplient, l'enseignement du français est plus valorisé et par conséquent en plein essor. Ce qui concerne la méthodologie de la recherche, en vue d'étudier les représentations de la France dans les manuel chinois de FLE, nous avons entrepris trois axes d'analyse. Le premier axe se déploie autour de notre corpus de manuels. Elle permet d'observer une évolution des contenus culturels dans les documents pédagogiques selon les époques et d'étudier les représentations endogènes et exogènes en profondeur grâce aux analyses descriptives, comparatives et diachroniques. Le deuxième axe concerne notre corpus témoin, les auteurs du manuel et les éditeurs. Nous souhaitons donc, par les entretiens individuels avec les témoins, acquérir des renseignements nécessaires pour l'interprétation de représentations axiologiques dans les manuels. Enfin, dans le troisième axe consacré aux acteurs de terrain, nous avons étudié d'un côté l'appréciation des professeurs et des apprenants vis-à-vis de certains manuels en usage dans le cours de français général, la méthode d'emploi de ci, et d'un autre les éventuelles répercussions que le manuel pourrait exercer sur la représentation par les apprenants de la culture et langue enseignée. Les trois axes d'études forment une triangulation des données et une triangulation des méthodes. Nous avons recours aux données statistiques et discursives issues des manuels à la transcription des entretiens avec des témoins et aux données quantitatives recueillies par des questionnaires. En plus, une combinaison de plusieurs méthodes de recherche est mise en place, comme par exemple la méthode quantitative, qualitative, l'analyse du contenu et l'analyse du discours. Je me concentre aujourd'hui sur la représentation de la France dans notre corpus et la conception de la du culture qu'elle véhicule au fil du temps. En nous inspirant de la classification des imaginaires ethno-socioculturels de Henri Boyer, ainsi que des travaux de Risager sur la catégorisation des éléments culturels dans les manuels des langues étrangères, nous avons élaboré notre propre grille pour relever les représentations de tous niveaux sur la France et pour ensuite analyser la genèse et l'impact de ces représentations. Nous avons modifié et complété la classification de Henri Boyer en mettant en évidence un nouveau niveau de représentation, c'est la représentation interculturelle et multiculturelle. Plus précisément, nous allons non seulement voir comment la France est représentée dans les manuels, mais aussi comment la relation sino-française et le contact entre les Français et les Chinois sont représentés, comment les Chinois voient la France parmi d'autres pays étrangers. Et par l'analyse du niveau macroscopique, nous nous sommes référés aux travaux de Nathalie Auger et de Henri Boyer en prenant en compte des mots identitaires, à savoir le toponyme France, l'éponyme français, le lect français et aussi l'adjectif français qui s'applique à tout substantif. Nous ciblons aussi les noms propres, c'est-à-dire les noms des pays, des villes, des célébrités, des personnages fictifs présents dans les textes. Les occurrences et noms propres nous permettent de compléter les informations descriptives thématiques pour réaliser enfin une sorte d'esquisse de l'autre France dans les manuels chinois de FLE de différentes époques. Alors, à titre d'exemple, je vous montre deux schémas que nous avons pour vous donner une idée de ce que nous avons fait comme analyse niveau macroscopique. Et l'analyse de niveau mésoscopique et des représentations reste une analyse de contenu. Elle repose sur notre grille de catégorisation des composantes ethno-socioculturelles et vise à réaliser une série de peintures plus ou moins détaillées de la France représentée dans différents manuels. Vu le volume colossal et la nature polyphonique des données, la théorisation ancrée, en anglais c'est Grounded Theory, nous semble être la meilleure méthode d'analyse qui nous conduira à repérer l'essentiel des informations par plusieurs niveaux de codification. Voici un extrait de nos données brutes pour l'analyse niveau mésoscopique. Donc, je passe à la troisième partie. La représentation de la France au fil du temps, vu le temps est tellement limité, je vous présente brièvement la représentation de la France dans les manuels de notre corpus. Et voici un tableau qui vous permet d'avoir un aperçu, des représentations de différentes strates. Et comme les représentations ne peuvent pas être chiffrées et une comparaison verticale entre les manuels ne se fait que de manière relative, et pareillement, pour la comparaison horizontale dans le même manuel, les stars ici servent donc d'indicateurs approximatifs. Donc globalement, nous voyons que les représentations sur la France dans le manuel CFU, on sait cours de français universitaire, sont les plus réduites, tandis que le français des années 90 est le manuel où la France est le plus exposée de presque tous aspects. Dans tous les manuels, les représentations de la strate patrimoniale occupent une plus grande proportion par rapport à d'autres strates. Et à l'opposé, les représentations de la strate anthropologique, c'est-à-dire sur les traits des habitants, le folklorique, la relation interpersonnelle, bref, tout ce qui est individuel, sont le moins évoqués dans tous les manuels. Voici un résumé récapitulatif très simplifié. Dans le cours de français universitaire, la France est représentée plutôt de manière géographique. On a évoqué, par exemple, la superficie de la France, la situation géographique, la population, etc. Seulement deux villes, Paris et Lyon, sont présentées de manière plus ou moins détaillée. comme les monuments historiques, les sites touristiques, etc. Et du tome 3 au tome 5 de ce même manuel, les documents pédagogiques sont composés uniquement des extraits littéraires ou biographiques, dont la grande majorité des auteurs sont communistes ou écrivains progressistes comme Louis Aragon, Jean Lafitte. Et au niveau socioculturel, nous ne voyons que quelques anecdotes qui se passent pendant des guerres, par exemple la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre franco-prussienne. Concernant les Français, et dans ce manuel des années 50, les Français portent une image laborieuse, malheureuse, mais très sympathique. Le contact Chine-France est réduit malheureusement à néant, tandis que la relation franco-suisse est particulièrement valorisée. Dans le français des années 60, les représentations de la strate patrimoniale restent géographiques et historiques. Donc, on parle toujours des guerres et ce sont toujours des écrivains communistes, progressistes ou patriotiques comme Alphonse Daudet qui sont les plus cités. L'agriculture, la gastronomie française sont évoquées. Les Français portent une image patriotique grâce à surtout certains textes comme Gabriel Péri, Le Père Milon ou un extrait de La dernière place d'Alphonse Daudet. Le contact de Chine-France se limite au voyage des Chinois en français. Par contre, la relation sino-africaine est valorisée. L'Allemagne est toujours en guerre avec la France et on met en avant la confrontation entre le monde capitaliste et socialiste. Ensuite, le français des années 80 incarne la transition de deux époques, l'époque où les événements politiques primait sur toute autre activité et l'époque où la Chine a commencé à s'orienter vers le développement industriel et économique. Un texte intitulé Quelques aspects de la France présente la France globalement sous l'aspect géographique, mais nous y trouvons à la fois quelques descriptions sur l'économie de ce pays et surtout la Commune de Paris, premier pouvoir prolétariat dans l'histoire de l'humanité. Et les représentations socioculturelles sont beaucoup plus riches que le manuel précédent. Le sport, le logement, la SNCF, la poste, la télécommunication, etc., ils sont présentés de manière assez détaillée dans des textes, des dialogues fictifs. La relation franco-africaine est évoquée et du point de vue plutôt de la colonisation. L'Allemagne est toujours le pays en guerre avec la France et le contact français-chinois sont plus fréquents. À la différence des trois manuels précédents, le manuel des 90 se caractérise par le volume abondant des représentations sur la France, de la géographie, l'histoire à l'industrie et l'agriculture, en passant par le système social, par exemple santé, politique, éducation, etc. L'auteur met en avant une France aux multiples visages et un hexagone fabuleux. Les représentations ethno-socioculturelles sont soit dans les textes principaux des leçons, soit dans la rubrique qui s'appelle Un peu de civilisation ou dans la lecture. Plusieurs textes portent sur le français et qui sont à la fois, pardon, les Français sont à la fois passionnés de leur vie ou de leur profession, qui aiment la liberté et qui sont d'ailleurs distants. Donc, l'amitié sino-française est clairement annoncée par l'auteur du manuel, avec surtout des témoignages de l'ex-ambassadeur de France en Chine, Monsieur Étienne Manac. Finalement, En route, donc le manuel le plus récent, contrairement à tous les manuels précédents, l'auteur contourne exprès les clichés ou stéréotypes de la culture française, en soulignant que la France est bien plus que Paris et Victor Hugo. Les extraits littéraires sont en majorité issus des écrivains contemporains et surtout francophones. Ils ne servent pas tout simplement de documents pour introduire des points grammaticaux ou une certaine thématique de vocabulaire ou encore culture française. Ils véhiculent les valeurs que l'auteur veut transmettre aux étudiants. Ou au moins susciter l'attention, la réflexion des derniers à la vie d'aujourd'hui. Par rapport à le français des années 90, les représentations sur la France dans, en route sont moins riches et moins structurées, c'est-à-dire elles sont presque partout, dans les textes, lectures, exercices ou phrases isolées servent d'exemple pour expliquer les points de grammaire ou dans les iconographies, etc. Et la culture française n'est pas considérée comme une connaissance encyclopédique, mais plutôt une fenêtre par laquelle les étudiants observent le monde et se sensibilisent aux problématiques de la société que nous vivons aujourd'hui afin de forger des valeurs ou de l'éthique à portée universelle. Donc, quatrième point, on va parler de la culture dans les manuels de FLE en Chine. Donc, nous avons mis le mot culture en pluriel parce qu'il est question de plusieurs composantes, plusieurs savants, par exemple, culture savante, culture courante, culture exogène, culture anthogène et les valeurs universelles. Et toutes ces composantes font plus ou moins l'objet des manuels qui constituent notre corpus et sont incarnés par les représentations de différentes strates. Par les analyses, on peut constater qu'avant les années 90, c'était la culture savante qui dominait dans les manuels de FLE en Chine, alors qu'à partir des années 80, la culture courante s'enrichit et arrive à l'apogée dans le français des années 90. Et grâce à l'ouverture de la Chine, beaucoup de jeunes Chinois font l'expérience de visiter la France, et ce qui fait que la France et la culture française n'est plus comme une terre étrangère et mystérieuse. C'est pourquoi l'auteur du dernier manuel En route a sorti des sentiers battus en mettant en avant la culture de la francophonie et les valeurs universelles. Dans l'objectif d'éduquer les Français par la langue et culture étrangère. Et les représentations culturelles sont véhiculées par différents supports. Il y a documents authentiques et documents fabriqués. Et au début, à défaut de ressources, l'auteur avait recours plutôt à la littérature, comme par exemple extrait des œuvres littéraires, poèmes, même rôle de chanson. La presse française est ensuite accessible et est devenue une des ressources importantes de documents pédagogiques. Nous trouvons des articles de presse modifiés servant de documents pédagogiques principaux dans le français des années 90 et En route. À l'ère numérique, l'auteur de En route a puisé des idées et des vidéos dans les vidéos ou articles authentiques sur Internet, et c'est pourquoi les présentations ethno-socioculturelles sur la France dans ce manuel sont les plus authentiques et surtout mises à jour. Et en ce qui concerne l'importance que l'auteur accorde à la culture dans le manuel, avant les années 80, la culture française était enseignée presque de manière implicite. À part un nombre très limité de textes portant sur la France, Paris, Normandie, ou des extraits littéraires servant de support pour enseigner les points grammaticaux ou la linguistique, les représentations sur la France sont dispersées de manière simplifiée dans des exercices ou dans des explications des points grammaticaux. Ou même dans l'annexe comme chansons ou poèmes, etc., dans les années 80. Oui, merci. Nous voyons plus de textes principaux qui portent sur la culture française. Et dans le français 80 ou 90, nous voyons respectivement l'apparition d'une nouvelle rubrique, Le savez-vous, et un peu de civilisation. Elles sont créées particulièrement pour présenter systématiquement la société et la culture française. Et quant au manuel En route, les représentations sur la France sont exposées surtout dans le manuel explicitement ou implicitement. Donc, je saute très rapidement. Pour montrer l'évolution de la conception de la culture dans les manuels, nous prenons l'exemple de la culture. Dans CFU et le français des années 60, la littérature est utilisée principalement comme document pédagogique qui véhicule en même temps l'idéologie valorisée par la Chine. Et dans le français des années 80 et 90, les extraits littéraires sont employés pour véhiculer les représentations culturelles sur la France. Aujourd'hui, avec En route, la littérature est plutôt le support visant à former chez les apprenants une ouverture d'esprit ou la sensibilité aux problèmes sociaux. Enfin, le statut de la littérature française, qui demeure dans tous les manuels, c'est qu'elle est enseignée en tant que patrimoine, connaissance culturelle. Là, avec tous nos analyses, nous arrivons à ce schéma qui conclut l'évolution de la conception de la culture de l'autre au cours des 70 ans. Dans les années 50 et 50, 10, dans les années 50 et 60, la culture de l'autre France était soit en confrontation avec celle de la Chine, soit au service de l'idéologie valorisée par la Chine. Dans les années 80-90, l'accessibilité à la culture française a entraîné l'exposition importante, même considérable, de celle-ci dans les manuels et la comparaison interculturelle entre l'autre et soi-même. Et aujourd'hui, l'objectif culturel de l'enseignement de la langue et culture ne se limite pas à l'expérience de l'altérité, est question plutôt de former les citoyens du monde via la culture de l'autre. Donc, j'arrive à ma conclusion qui est aussi une ouverture. Donc, voici très rapidement quelques données issues de notre enquête auprès des étudiants qui apprennent le français avec En route. C'est très intéressant de voir que les étudiants apprécient la rubrique civilisation dans ce manuel, mais la trouvent la moins utile. Et s'ils aiment certains textes, alors parce qu'ils sont utiles, authentiques, intéressants ou proches de la vie quotidienne. Alors cette partie, donc, je la rapporterai peut-être dans un autre colloque. Merci beaucoup pour votre attention.